I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 692 du podcast Touch en Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. On arrive dans la semaine 15 et il s'est passé plein de choses. À mes côtés pour en parler, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Comment ça va après cette semaine agitée? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de clarté dans la course aux playoffs, ce qui est plutôt intéressant.
Ah non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de clarté. Il y a même, je lisais que selon Vegas, il y a 8 underdogs, donc 8... Déjà, quel est le français de underdog?
Des non-favoris, des outsiders, des non-favoris,
ouais,
quoi.
Ouais, 8 non-favoris qui ont gagné cette semaine leur match, ce qui est un record depuis le début des années 2000, donc voilà.
Ouais, donc il y a énormément d'équipes qui peuvent prétendre aux playoffs. En AFC, c'est le chantier à peu près partout. On va commencer par ça d'ailleurs, par l'AFC. Ensuite, on parlera de la NFC Sud qui elle aussi est très indécise. Et puis des wildcards en NFC. C'est le programme de la 14e. J'ai un vrai problème. C'est le débrief 14e. De la 14.
C'est voilà, le débrief de la 14.
Je m'embrouille dans les previews, les trucs. Voilà, 15e du 13 au 19 décembre. Je suis en train de vérifier sur mon calendrier en même temps. C'est bien ça, on débriefe la 14e semaine. Je perds les pédales en ce moment, c'est terrible. Et c'est juste après ce petit jingle.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Ravens 37, Rams 31, après prolongation, un super match qu'on a eu la chance de commenter, Raphaël, victoire des Ravens sur un retour de punt en prolongation, les Ravens restent en haut de la conférence AFC, 3 victoires de suite, mais une victoire pas forcément parfaite, Raphaël, ils ont failli se faire très mal avec des pénalités, avec une interception de Lamar Jackson, avec un safety sur un mauvais snap, est-ce que finalement ça montre aussi qu'ils ont de la marge?
Ça montre effectivement que c'est une équipe qui a du talent, qui peut être encore meilleure que son bilan ne le laisse paraître et que la prestation globale peut laisser sous-entendre, parce que il y a ces petites erreurs individuelles qui sont quand même globalement assez rectifiables. Je veux dire, un mauvais snap comme ça, c'est pas un défaut structurel du centre et il va pas faire ça à tous les matchs non plus. Donc voilà, là t'as. Ça peut arriver, c'est une petite erreur qui coûte 2 points. Il y a aussi quelques pénalités qui, à mon sens, sont globalement gommables. Donc oui, je pense que c'est une équipe qui peut prétendre à être encore même un peu mieux, un peu meilleure dans la copie qu'elle rend. Donc ils ont un peu de marge, ouais, je suis d'accord.
Celui qui est le plus scruté, évidemment, c'est Lamar Jackson. Il est à 24 sur 43, 316 yards, 3 touchdowns, 1 interception dans ce match. Il a aussi 11 courses pour 70 yards. Ça faisait depuis 2019, apparemment, qu'il n'avait pas autant décollé, scramblé en improvisation. Il y a plus d'armes. Il y a Odell Beckham qui a 97 yards. Il y a Zay Flowers qui en a 60. Il y a Isaiah Likely 83. Ils ont tous les trois un touchdown, ces joueurs-là. On a eu le sentiment parfois pendant le match qu'il fallait jouer un peu plus simple à la passe, Raphaël, mais mine de rien, ça, quand on le revoit, ça a quand même l'air de prendre forme, le Lamar Jackson passeur.
Oui, moi je trouve aussi que ça prend forme. Alors là, c'est peut-être pas le match de la saison où ça s'est le plus vu, notamment sur la précision, mais malgré tout, on sent qu'en termes de lecture de jeu, et notamment, comme tu le dis, quand il faut lancer rapidement, choisir la meilleure option, il a vraiment progressé, parce que c'est lancé qu'on le moins abouti, c'était souvent ceux où il gardait la balle 3, 4, 5 secondes et il attendait dans la poche. Alors que quand il jouait vraiment rapidement sur l'option préférentielle libre, c'était souvent très efficace, ça convertissait le first down, etc. Donc c'est devenu, je pense qu'il commence à être un passeur accompli. Et c'est vraiment prometteur pour Baltimore que Lamar Jackson puisse progresser sur son jeu de passe, parce que derrière ça, une fois qu'il sera un très bon niveau de passeur, il sera quand même difficile à arrêter, le bonhomme.
Mais ceci étant dit, même des fois il est resté un peu longtemps, mais il gère quand même de mieux en mieux la poche aussi, dans les petits mouvements, dans la gestion de la pression, etc. Ça a plutôt été intéressant. Et finalement, c'est quand même un match qui gagne en marquant 37 points. Alors oui, les équipes spéciales évidemment, mais il marque beaucoup de points sans avoir un gros jeu au sol. Et ce qui était les matchs qui perdaient normalement Baltimore.
Oui, totalement. D'habitude, par le passé, quand les Ravens marquaient beaucoup de points, et on pense notamment aussi à la saison où Lamar Jackson est MVP, c'est vrai qu'il y avait d'abord ce jeu au sol qui écrasait tout, qui permettait de prendre une large avance, et après, on gérait à la passe, on ajoutait quelques touchdowns pour en profitant de ça, parce que les défenses adverses étaient tellement concentrées sur la course qu'elles laissaient des boulevards à la passe. Là, on sent qu'il y a cette capacité de frapper dans les airs, et ça améliore, ça amplifie la palette de Baltimore.
Ils sont à 10 victoires, 3 défaites. Est-ce qu'ils ont l'air d'être l'équipe la plus solide qu'on a vue notamment cette semaine en AFC ?
Je pense. Je pense qu'ils sont l'équipe la plus solide en AFC.
La défense a pris 31 points, par exemple.
Ouais, je pense que ça peut arriver. Des jours un peu moins bons en défense. Malgré tout, il y a aussi quelques actions clutch en défense, etc. Demain, tu me demandes, c'est la défense que je préfère avoir en AFC pour jouer le titre. Enfin, je préfère partir avec eux au combat. Voilà, et comme l'attaque progresse et que l'attaque est plus polyvalente que par le passé, j'ai tendance à dire que c'est... Alors, ça les empêche pas d'avoir de faire des erreurs comme les autres, mais ouais, c'est peut-être la plus complète.
Du côté des Rams, j'y faisais allusion, ils mettent 31 points quand même à ce qu'était la meilleure défense de la NFL en arrivant dans ce match, parce que c'est vrai que les Ravens encaissent quand même moins de 16 points par match avant cette rencontre. Il n'y a pas de victoire morale, mais quand même, tu passes 31 points à la meilleure défense NFL, t'as aucun ballon perdu, alors ok, il en manque en fin de match, tu perds sur un retour de punt, mais on a quand même l'impression que ces Rams, c'est presque pour moi la plus grosse leçon de ce match, c'est qu'on a vu qu'ils pouvaient vraiment sérieusement rivaliser avec des équipes très très solides, voire une des meilleures équipes de la Ligue.
Oui, c'est quand même un bon point pour les Rams et pour Sean McVay de voir que son groupe jeune a répondu globalement présent. Alors, c'est sûr, c'est aussi les plus jeunes qui font les petites erreurs. Il y a ce drop de Pukanakwa, il y a cet autre ballon relâché par Davis Allen, le tight end rookie qui, au final, sont deux pertes de balles en fin de match qui coûtent un peu cher parce qu'elles empêchent des first down et peut-être que derrière, Los Angeles garde le ballon. Donc à la fois, ils font ces petites erreurs, mais en même temps, globalement, ils répondent assez présents sur un territoire hostile, on va dire ça, qui est Baltimore à ce moment-là. En début de saison, tu m'aurais dit que les Rams tenaient tête comme ça ou à la meilleure équipe d'AFC, j'aurais peut-être pas cru ça. Non. Donc, je trouve aussi que c'est positif, que ça les enterre pas spécialement pour la course aux playoffs en NFC, et que McVay et le manager général ont remis la franchise sur les bons rails, quoi.
Oui, non, mais c'est comme tu le dis, en fait, si en plus on met en perspective avec ce qu'on attendait au début de l'année, je pense que là, clairement, il n'y a pas photo. Kyren Williams est à 114 yards en 25 courses. Matthew Stafford lance 3 touchdowns pour aucune interception. Cooper Kupp est là avec 115 yards. Je suis comme toi, je pense que vraiment, ils ont quand même montré quelque chose. Les jeunes, et puis Stafford quand même. Stafford est bon sur ce match.
Stafford est bon sur ce match. On sent que quand il est... quand il est libéré physiquement et qu'en plus sa ligne offensive lui laisse un peu de temps, il reste un quarterback extrêmement précis, extrêmement clutch dans les lancers qu'il peut faire. Enfin, le touchdown pour Cooper Kupp est vraiment joli. Il y a quelques passes. Donc voilà, il reste des passes un peu mal ajustées, mais globalement, ça reste un très bon quarterback et c'est clairement, il peut clairement continuer à conduire cette équipe tant que le physique a l'air de le laisser tranquille.
Ils sont dans la course au playoff. En tout cas, Commanders, Saints et Giants à venir pour eux avant un final contre les 49ers. Peut-être que les 49ers n'auront rien à jouer d'ailleurs. Avec
plus, ce...
Donc ça peut être. En tout cas, ils sont à 6 victoires, 7 défaites. Ce ne sera pas facile, mais ils sont dans la course au playoff. Les Baltimore Ravens, eux, 10 victoires, 3 défaites. Désormais, seuls en tête de la conférence AFC. C'est quand même la grosse nouvelle de cette semaine. Derrière eux, on retrouve notamment, alors pas immédiatement derrière, mais derrière eux, on retrouve notamment les Chiefs avec qui ont affronté les Bills. 20 à 17 pour les Bills. Une fin de match un peu polémique à Kansas City. Les Chiefs ont marqué un touchdown sur une latérale de Travis Kelce pour Kadarius Toney à 1 minute 12 de la fin. Annulé pour un hors-jeu, un offside de Toney au départ de l'action. Les Chiefs sont furieux. Ils sont un peu excusés depuis. La réaction était excessive, machin. J'ai en effet l'impression, Raphaël, on va évacuer ça très vite, mais c'est une polémique pour rien, non ?
Oui, c'est totalement une polémique pour rien. Kadarius Toney est mal aligné, il y a faute point, enfin il y a zéro
ben,
dedans.
C'est
en fait.
Ça, je. Oui, mais l'action était belle. Tu vois, c'est comme si on disait il y avait hors jeu, mais franchement il a fait un retourné, donc on accorde le but. Tu vois, genre ben non, en fait tu peux faire une belle action, il est hors jeu,
jeu. Enfin, totalement d'accord. Ouais.
J'ai pas compris le. Oui, alors le grand truc c'était les arbitres l'ont pas prévenu. Mais déjà, un, ils sont pas obligés. Deux, les arbitres peuvent demander conseil pour l'alignement. Les joueurs peuvent demander conseil s'ils sont bien alignés. Et il n'y a rien qui oblige. Et apparemment, en plus, quand c'est très évident, les arbitres sont pas obligés non plus de le dire. C'est-à-dire que là, c'était quand même assez évident. Donc, il était censé se replacer. Donc là-dessus, bon, voilà. Est-ce que c'est pas. Surtout, Mahomes s'est particulièrement énervé à la fin du match. La poignée de main, notamment avec Josh Allen, n'est pas très élégante parce que
non,
la seule chose qu'il
pas.
Lui dit, c'est l'arbitrage était nul, c'est un scandale, c'est... etc. Donc ça, c'est quand même pas très élégant. Est-ce que c'est pas surtout un peu. Un signe de frustration
si,
global sur tout le match quoi.
C'est un signe de frustration sur le match et même j'ai envie de te dire sur la saison.
Oui.
La saison parce que Mahomes, je pense que déjà Mahomes se rend bien compte que même lui est un peu moins bon à titre individuel et je pense que vu le compétiteur le machin ça doit l'énerver de faire déjà lui-même des erreurs individuelles mais en plus ça doit aussi l'énerver de voir que le casting autour de lui multiplie les erreurs et les bourdes semaine après semaine j'ai envie de dire. Kadarius Toney, c'est peut-être déjà la deuxième ou troisième victoire qui coûte à l'équipe. On va exagérer, c'est jamais un fait de jeu entier qui coûte un match, parce que derrière, Buffalo peut avoir de nouveau le ballon, repasser devant, voilà, mais globalement, il coûte quand même à cette équipe. Il y a aussi il y a le fumble de Rashi Rice, là aussi, qui coûte très cher. Donc je pense qu'il est aussi énervé par tout ça, par ses erreurs individuelles dont il n'avait pas l'habitude parce que ces dernières saisons, l'environnement autour de lui ne faisait aucune erreur. Donc le tout dans le tout, ces erreurs-là individuelles de sa pomme et les erreurs de ses collègues doivent commencer un peu à le saouler, ouais, c'est ça. Ouais.
Tu l'as dit, Rice, il y a un fumble, il y a quelques drops aussi. Il y a toujours ce truc quand même qu'en dehors de Travis Kelce, Rice commence à avoir quand même une certaine régularité. Mais en dehors de ça, quand il faut aller chercher un peu plus loin que la ligne de scrimmage, bah en dehors de Kelce et maintenant Rice, c'est très très compliqué. Donc moi je pense surtout quoi, il est frustré de ça. Comme tu le disais, il y a d'autres erreurs qui leur coûtent le match avant et c'est vraiment compliqué. La défense reste le point fort. Ils ont tenu les Bills à 6 points en deuxième mi-temps, mine de rien. Donc il y avait de la place, mais il n'y a plus l'attaque qu'ils avaient ces dernières années. Et donc je pense que c'est ça la frustration. Parce qu'un match où l'équipe d'en face met 20 points, je pense que Patrick Mahomes, il était habitué à les gagner ces dernières années.
Bien sûr, bah là j'ai pas la stat, mais à mon avis, si tu regardes le nombre de matchs que les Chiefs ont perdu en encaissant 20 points ou moins, ça doit pas être extrêmement nombreux. Parce qu'à chaque fois, l'attaque de Kansas City faisait plus et il y avait pas vraiment débat. Donc là, il se rend bien compte que c'est lui et son attaque qui coûtent des victoires à Kansas City cette année. que c'est pas la sinecure, ils sont champions en titre, mais que c'est pas la sinecure espérée, etc. Et voilà, c'est de la frustration. Et que le problème, c'est, t'as le sentiment que c'est vraiment de l'apprentissage d'une partie de l'environnement autour de lui et des receveurs, et que ça risque d'être un peu juste d'ici la fin de saison. En fait, les progrès individuels risquent d'être un peu juste, en fait.
Et puis, encore une fois, c'est vrai que quand tu y repenses, tu disais, Mahomes, il n'a pas l'habitude, etc. Ça avait tellement cartonné dès sa première année aussi.
Bah oui, oui.
Il a jamais connu, en fait, vraiment de saison de doute, etc. Donc, il y a peut-être un moment où là, ça commence un petit peu à travailler. Et je regardais, du coup, leur calendrier, maintenant qu'on en parlait. Leur défaite, ils perdent 20-17 là, ils perdent 27-19, ils perdent 24-9, ils perdent 21-20. C'est même pas, voilà, ils prennent même pas des cartons, quoi. C'est vraiment des matchs. Où c'est juste qu'ils marquent pas beaucoup de points et que l'attaque est en difficulté, et c'est vrai que ça, c'est vraiment pas habituel. Je regarde, ils ont même une victoire 17 à 9 contre les Jaguars, tu vois, ils ont marqué que 17 points, ils ont battu les Broncos 19 à 8, donc ils marquent vraiment pas énormément de points par rapport à leur standard. Quand ils battent les Dolphins, c'est 21-14, non plus. Donc bon, en tout cas, il y a de la frustration de ce côté-là, du côté de Kansas City. Les Bills, donc, eux, ont été courageux. Ils ont débuté le match par un 14-0. James Cook a été quand même plutôt le facteur X dans ce match. J'ai l'impression 58 yards au sol et puis 83 et un touchdown dans les airs. Donc c'est une bonne nouvelle quand même qui en fait un peu de soutien dans ce niveau-là, dans le backfield pour Buffalo.
Oui, c'est forcément positif parce que tu comptes un peu moins sur un Josh Allen héros qui enfile la cape de Superman et qui essaye de tout faire à lui tout seul. C'est positif. Après, c'est vrai que ce coup, le sol a commencé un peu à réduire d'intensité, j'ai trouvé en fin de match, et peut-être à un moment où ils avaient besoin de repasser et de garder le ballon, donc ça pourrait être problématique. Je suis pas sûr que tout soit réglé, mais effectivement, c'était quand même un peu mieux en attaque.
Alors, Josh Allen a été bon, hein, encore une fois, même si ses stats sont pas particulièrement significatives, mais il a été bon, il les porte un peu, parce que c'est vrai en dehors de Cook, Stephen Diggs est à 24 yards, Dalton Kincaid à 21, Dawson Knox à 36, enfin, ça manque de jus. On a l'impression, mais ils arrivent à faire les actions qu'il faut, que ce soit en attaque ou en défense, j'ai l'impression.
Ouais, en attaque, je suis d'accord, c'est encore un peu juste. Pour le moment, je trouve pas que le changement soit flagrant depuis le licenciement de l'ancien coordinateur offensif. Je trouve pas que l'attaque prenne une ampleur démesurée, donc voilà. Et la défense, comme tu dis, il y a ces actions un peu clutch qui font la différence, les fumbles forcés, etc. Tant qu'ils arrivent à maintenir à peu près ce côté clutch, ils peuvent continuer à gagner, mais on les sent pas aussi bons qu'ils ont pu l'être l'an dernier ou l'année d'avant encore, quoi. C'est pas encore, voilà.
On ne sait pas si ça va le devenir d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que cette attaque, elle a un peu régressé et que ils sont ce qu'ils sont, quoi, maintenant.
Je suis comme toi, je suis pas sûr qu'on le revoie, mais l'avantage, c'est que ça peut-être suffire dans cette AFC.
C'est ça, parce qu'ils sont actuellement 11e de l'AFC à 7 victoires 6 défaites, mais les Bengals devant sont 10e à 7 victoires 6 défaites, les Broncos devant à 7 victoires 6 défaites, les Texans à 7-6, les Colts à 7-6 aussi, et on remonte comme ça jusqu'aux Steelers qui sont 6e à 7-6, donc ça veut dire qu'il y a 6 équipes qui sont au même bilan.
Franchement, ça a été presque un week-end parfait pour Buffalo. T'as Miami qui perd, les Steelers qui perdent, les Texans, les Colts, et en plus quand tu regardes ces 4 équipes perdent contre des équipes qu'elles auraient dû a priori battre. Donc, franchement, Buffalo s'est vraiment relancé dans la course aux playoffs grâce à ça. Ils peuvent être heureux.
Oui, en plus, ils jouent Miami en dernière semaine. Donc, si Miami trébuche, ce qui nous fait une transition naturelle vers Dolphins 27, Titans 28. Miami menait 27-13 dans le dernier quart-temps. Ils ont pris un 15-0 dans les 3 dernières minutes. Alors, je me rappelle plus de la stat exacte parce que je l'ai vu passer sur le Slack de la rédaction, mais qui étaient les équipes qui menaient de 15 points ou de 14 points dans les 3 dernières minutes. Normalement, c'était 279 victoires, 0 défaites ou quelque chose comme ça. Jamais personne n'avait pris un 15-0 dans les 3 dernières minutes comme ça. C'est une défaite assez inexcusable pour Miami, Raphaël.
Ouais, là elle est défaite pour le coaching staff, etc., qui doit trouver un moyen d'empêcher cette défaite. Ils sont face à une équipe des Titans qui a beaucoup de difficultés en attaque, qui est prenable en défense. Miami joue vraiment pour la première place en AFC, ils peuvent pas perdre comme ça. Surtout en menant à 3 minutes de la fin, ils ne peuvent pas perdre ce match et se tirer une balle dans le pied parce que s'ils gagnaient ce match, ils se donnaient vraiment de l'air par rapport à Buffalo pour la division. Ils prenaient même un peu d'avance sur la tête AFC à égalité avec les Ravens. Enfin bref, c'est une faute professionnelle tout simplement. Il n'y a pas. Ouais.
Donc Miami, je le disais, menait 27-13. Les Titans perdent deux ballons qui permettent à Miami de marquer les deux touchdowns en plus, qui leur permettent de prendre le large. Mais derrière, la défense ne tient pas. On est sur quoi, du coup, plus techniquement, sur quoi ça s'est joué? C'était du mental ou c'est vraiment des erreurs, ou c'est Tennessee qui a mieux exécuté et qui l'aurait passé dessus en fin de match?
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des deux. T'as Tennessee qui, effectivement, joue quand même bien le coup en fin de match, avec des passes plutôt bonnes de Levis et quelques courses intéressantes également. Mais Miami se rate. Miami n'est pas assez efficace en attaque également à ce moment-là du match. Enfin, ils rendent peut-être la balle. Enfin, ils font pas assez en attaque pour se mettre vraiment à l'abri à la fin du match. Il y a deux. T'as un punt de mémoire entre les deux touchdowns entre les deux touchdowns des Titans. C'est même un third and out. Ça doit pas arriver. Enfin, Miami doit garder en fait la balle à ce moment-là par rapport à l'attaque que c'est. Ils doivent garder la balle, garder le contrôle du match et c'est réglé en fait. Et Tennessee ne doit jamais revoir ce ballon. Donc je dirais que c'est l'attaque et la défense, c'est les deux.
Faut rendre hommage aux Titans parce qu'ils ont quand même un vrai eux mental sur le coup, parce qu'ils sont quand même ils sont en train de se faire enterrer par une équipe qui est meilleure. Will Levis finalement se reprend en fin de match, 327 yards, un touchdown, une interception à la fin. DeAndre Hopkins monumental en fin de match, cette réception 124 yards, un touchdown. C'est quand même, c'est un match pour rien parce que 5-8, on va pas se mentir là, il y a tellement d'équipes devant, c'est quand même ils sont plus dans la course au playoff, mais c'est bon pour la confiance de Will Levis quand même.
Oui, c'est toujours bon quand t'as un quarterback rookie d'aller faire ce genre de comeback dans le quatrième carton. Ça permet de pour l'ego, je pense. Enfin, vraiment, hein, cette capacité à aller chercher un match, c'est important. Donc c'est bon, surtout qu'il porte cette équipe sur les deux derniers drives. Enfin, il fait vraiment des passes très réussies, tout ça. Donc c'est pas mal. J'ai trouvé aussi qu'il a réussi à éviter pas mal la pression des Dolphins. Hein. Il prend 15 sacs malgré ce qui est peut-être d'ailleurs un problème de Miami. Il y a qu'un seul sac sur la pomme de Will Levis. C'est bon pour lui. C'est pas encore, c'est pas parfait, mais c'est normal. C'est un rookie. Voilà.
Est-ce que c'est le match, comment dire, signature pour la candidature de Tyreek Hill au poste de MVP, parce qu'il sort sur blessure dans le premier quart à la cheville, ils ont marqué avant ça, il revient dans le troisième et en fait entre le moment où il sort et le moment où il rentre, et ben ils ont pas marqué un point.
Pour moi, oui. Pour moi, c'est un peu un match signature qui montre que Tyreek Hill est peut-être la pièce maîtresse la plus importante de cette attaque. Je suis même pas sûr qu'il était là sur le tout dernier drive de Miami, j'ai un doute qu'il ait été aligné. Je dois avouer qu'en regardant le 40 minutes sur le Game Pass, j'arrivais pas à zoomer sur le snap, donc j'arrivais pas à bien voir s'il était là.
Tu me mets un doute, mais en tout cas il est pas recherché une seule fois sur le dernier drive,
il est pas, ce qui à mon sens est déjà suspicieux, mais bref, vraiment j'arrivais pas à voir la composition des snaps à ce moment là, donc voilà, je suis pas certain, mais pour moi, oui. Enfin, tu vois qu'il y a une différence entre Tyreek Hill là et Tyreek Hill pas là dans cette attaque. Et sincèrement, si les Dolphins mettent autant de points, c'est parce qu'il est là. Enfin, et quand ils ont, pour moi là, c'est vraiment c'est le receveur qui a le plus de yards, qui a le plus de touchdowns, qui a le plus de first down, qui a le plus de yards après réception. Son équipe quand elle est pas là marque pas de points. Enfin, je veux dire, si c'est pas la définition d'un most valuable player, en tout cas, ça en est pas loin. Enfin, moi, voilà.
Ça montre un petit peu aussi les limitations de Tua Tagovailoa. Il est à 240 yards sur 23 passes complétées. Encore une fois, il progresse, il progresse doucement. Si je peux me permettre de filer la comparaison, vous avez parlé de Dak Prescott hier, mais il me fait un peu, tu vois, Dak Prescott au début de carrière était bon, mais c'était pas encore. Ouais, tu vois, il a fallu quelques années. J'ai l'impression que tu as Tagovailoa pour être un de ces joueurs qui a besoin de plus, qui va mûrir dans le temps aussi.
Peut-être. Moi, je dirais même jusqu'à peut-être même une sorte de Matt Ryan un peu. Oui, Matt Ryan explose un peu sur le tard. T'as des saisons qui sont correctes, mais jamais stratosphériques. Et puis progressivement, ça, ça prend en ampleur et ouais, moi ça me fait un peu penser à ça. C'est pas les mêmes qualités forcément tout ça, mais dans la capacité un peu à progresser, peut-être aussi ça. Mais je suis d'accord. On sent du coup que c'est pas Tagovailoa qui porte l'équipe, qui porte cette attaque. Il l'exécute bien. Il exécute ce qu'il y a à faire, mais il n'est pas encore le. On lui donne pas les rênes totalement, quoi.
On passe un peu plus bas dans la course à ces playoffs de l'AFC avec les Browns 31, Jaguars 27. Les Jaguars qui sont toujours leaders de leur division, mais ça commence à devenir un peu plus fragile, mine de rien. Joe Flacco est parmi nous. Le score est un peu trompeur, hein. Les Browns menaient 28-14 dans le dernier quart. Les Jaguars ont réduit le score, mais derrière, il y a eu un onside kick recouvert. Les Browns n'ont pas vraiment été en danger. Joe Flacco, je le disais, 26 sur 45, 311 yards, 3 touchdowns, 1 interception. C'est moi ou c'est déjà leur meilleur quarterback de la saison? Ils ont eu 4 titulaires qui ont gagné des matchs au poste de quarterback cette année.
Ça, pour le coup, pour moi, c'est une stat qu'on doit mettre au crédit de Stefanski. Hein.
Ouais, ouais.
Parce que franchement, enchaîner 4 quarterbacks de Stefanski et de la défense et donc de Jim Schwartz, quoi. Pour moi, c'est vraiment là le coaching staff qui doit être félicité pour ça parce qu'il y a pas mal d'équipes, tu leur mets plus le quarterback titulaire, ça s'effondre dans tous les sens et on dit ah oui, mais j'ai pas mon quarterback clairement titulaire. Bon, bah, sans oublier qu'ils ont plus Nick Chubb qui était quand même la pièce maîtresse de cette attaque. Bref.
Aussi, oui.
Joe Flacco, effectivement, c'est la meilleure prestation d'un quarterback de Cleveland cette saison. C'est assez incroyable, hein. Il était sur son canapé, Joe Flacco, il y a encore quelques semaines.
Apparemment, il avait passé des tests pour la télé aussi.
Ouais, bah voilà, écoute, assez incroyable. Non, mais que dire du vétéran? Tu sens que c'est un bon quarterback et qui connaît le jeu, quoi, en fait. Il sait lire une défense, il sait prendre la meilleure option, il a encore un peu de bras et voilà.
C'est le vétéran, tu sais, sur le terrain, sur le playground de basket, tu sais, qui vient et qui joue un peu en marchant, mais il a toujours le bon geste,
ouais,
quoi. Il a
ça.
Toujours le
ouais,
bon
ouais,
truc. Ouais, ouais. Après, il a 38 ans, il est déjà titré, il a déjà joué avec une grosse défense pour l'aider. Donc, il a ce qu'il faut, en fait, pour ce qu'il cherche actuellement. Je veux dire, c'est pas étonnant, parce que dans la foulée de ce match, on vous le précise, il a été nommé titulaire pour le reste de la saison. Avant le match, en fait, ils avaient laissé un petit peu de suspense. Dorian Thompson-Robinson était revenu de blessure. Bon, on se doutait bien que c'était Flacco qui allait jouer, mais voilà, il n'était pas officialisé. Là, maintenant, ils ont officialisé, c'est lui jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'en plus, lui, il n'a pas de pression. Je suppose qu'à cet âge-là, il s'en met pas.
Ouais,
il a déjà un titre.
Oui, ouais.
Donc, voilà. Mais il y a une vraie connexion avec David Njoku et Amari Cooper, hein.
Il y a une vraie connexion avec les deux, mais je trouve même un peu avec tout le monde, parce que la semaine dernière, c'est Lee Jamour qui l'avait fait briller. Mmh. Bon, tu sens qu'il passe aux cibles qu'il faut. Et... Non, c'est vraiment... Là, je trouve que ça fait vraiment... Ouais, c'est ça, quarterback vétéran qui connaît le jeu. Et...
Je dis que c'était le meilleur quarterback de Cleveland, parce que mine de rien... si on t'avait dit que Cleveland gagnerait un match contre les Jaguars en ayant seulement 82 yards au sol avec 2,9 yards par
ouais,
course,
j'aurais douté fortement.
et pourtant, voilà, t'as un Joe Flacco à plus de 300 yards. J'ai pas regardé la stat, mais c'est pareil, hein, il est à plus de 300 yards. Il doit pas y en avoir eu beaucoup à plus de 300 sur même Deshaun Watson. Il a quand même très très peu flambé. Et puis il y a toujours cette défense, évidemment. Trevor Lawrence a été sous pression sur 46,4% de ses tentatives de passe, 4 sacks, 3 interceptions. Alors on rappelle que Trevor Lawrence s'est fait une entorse de la cheville en entorse ligamentaire la semaine dernière. Il joue parce que la science fait des miracles en NFL visiblement. Est-ce que visiblement c'était très raisonnable de jouer?
Je suis pas certain, mais en tout cas ça c'est vraiment le style Jim Schwartz, hein, qui est un coordinateur défensif qui aime bien mettre la pression et mettre beaucoup de pression. Là en face tu lui mets un quarterback derrière le centre qui est un peu diminué à la cheville, bah c'était sûr et certain que Cleveland allait blitzer et lui mettre la pression dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'était une évidence et ils ont eu raison de le faire. La preuve, ça a fonctionné. Ouais, j'ai trouvé effectivement Lawrence un peu en difficulté dans la poche, des lancers moins bons parce que peut-être moins une jambe d'appui, peut-être un peu plus fragilisée. Donc non, c'est certain. Je suis jamais certain qu'un quarterback diminué en NFL ce soit le meilleur parti pris de le faire jouer.
Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que quand bien même Lawrence n'était pas bien, j'ai l'impression que la défense n'était pas bien non plus, que le jeu au sol est vraiment très irrégulier, alors que ça devrait être une des forces de cette équipe. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air de s'étioler au fil de la saison là, pour Jacksonville, et c'est pas rassurant. Ils ont de la chance quand même que ça perde Houston, que les Colts perdent, parce que sinon ils pourraient avoir très chaud déjà.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas, y a eu en milieu de saison là, cet enchaînement de victoires qu'ils ont eu. Et depuis, ils ont quand même perdu il y a 2 semaines contre les Bengals de Browning. Alors ok, on a vu que Jake Browning a fait encore une belle perf, donc peut-être que voilà, mais Bon, c'est vrai qu'ils perdent contre des équipes qui sont a priori abordables avec des quarterbacks remplaçants. C'est... Ouais, ouais, ils prennent une tollée face aux 49ers qui sont bien meilleurs qu'eux. Enfin, ouais, tu... ils ont l'air de stagner un peu, quoi.
Ouais, et puis disons que le bilan, à un moment, les a peut-être montré un peu trop beau parce que leurs victoires, elles sont en fait surtout contre des équipes assez médiocres de leur division la plupart. C'est-à-dire que leurs victoires, c'est les Colts, les Falcons, les Bills, plutôt une victoire solide, les... ensuite, à nouveau, les Colts, les Saints, les Steelers, les Titans et les Texans.
Oui.
Il n'y a quand même pas beaucoup de victoires de qualité. Ils perdent contre les Chiefs, contre les Texans, les 49ers, les Bengals et les Browns.
Non,
et,
non, mais...
et derrière, ils jouent Ravens, Buccaneers. Attention à ne pas se faire rejoindre. Ils finissent avec Panthers et Titans. En théorie, ça a l'air porté. Hein, mais,
ouais, comme tu dis, ça fait quoi 8...
Là, ils sont à 8-5. Ils vont être vers l'équilibre. Hein, mais,
oui,
je pense que ça va passer dans leur division, notamment parce qu'on va voir que Houston a quand même pas mal de problèmes de blessures là, qui se sont accumulés. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le niveau, notamment de la défense aussi, c'est quand même un peu affaibli, alors que ça avait semblé être un point fort pendant quelques semaines, et puis plus vraiment.
Non, mais comme tu dis, la défense, le pass rush, hein, on avait dit que cette saison, le pass rush des Jaguars serait un peu un facteur X, parce qu'il y avait eu beaucoup d'investissements dessus, et que ça devait aider les cornerbacks, tout ça, et c'est vrai que ça stagne un peu, quoi.
Ouais, ils ont saqué qu'une seule fois Joe Flacco sur ce match, donc clairement il y a un petit temps d'arrêt. Petite pause, justement, en parlant de temps d'arrêt, petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Chargers 7, Broncos 24. Les Broncos sont chauds. Ils ne sont plus qu'une victoire derrière les Chiefs en AFC West. Si on avait pensé dire ça il y a quelques semaines. Ils menaient 17-0 dans le troisième quart. Les Chargers ont marqué. Denver répond avec un long drive de quasiment 8 minutes pour le touchdown de la gagne. Alors j'allais commencer par les Broncos, mais juste avant l'émission, on a quand même appris que Justin Herbert ne rejouerait pas cette saison. C'est quand même aussi la grosse info de cette semaine et de ce match, puisqu'il s'est à nouveau... il s'est cassé le majeur ou l'index, ouais, l'index cette fois. Parce que pourquoi je m'embrouille, chers auditeurs? Parce que en fait, il s'est cassé déjà un autre doigt de la main gauche plus tôt dans la saison, et je crois que c'était le majeur, et donc là c'est l'index ou l'inverse. Mais bref, vous avez saisi, c'est les doigts qui permettent de saisir un ballon normalement, globalement. Donc fin de saison pour Justin Herbert. Alors j'allais dire, en plus si on peut lier à ce match, hein. Il marque que 7 points, donc vous allez me dire oui, mais Herbert est sorti, etc., etc. Sauf que même avec Justin Herbert, les stats étaient terribles. C'est-à-dire qu'il a joué 6 séries offensives, 3 punts, 2 échecs sur 4ème tentative, 1 interception.
Oui. C'est peut-être, je trouve même que c'est pas peut-être, hein, c'est un des trucs les plus étonnants de ces dernières semaines du côté de Los Angeles. C'est que c'est l'attaque qui semble plus cassée. Parce que. Depuis 2-3 semaines, la défense semble presque, je vais pas dire bonne et reconcentrée, mais bon, il y a quand même toute une partie du match, la défense des Chargers maintient les Broncos à 10-17 points, c'est pas infamant. La semaine dernière, ils prennent pas de points contre les Patriots, ils prennent que 20 points contre les Ravens, tu vois ce que je veux dire, c'est que la défense n'est pas catastrophique depuis plusieurs semaines. Par contre, le problème, c'est que cette attaque de Los Angeles, depuis un mois, ne fait rien. que ce soit au sol ou dans les airs. S'il n'y a pas Keenan Allen, honnêtement, c'est même encore plus que rien. Et c'est là où, pour moi, la situation est vraiment intrigante, parce que ça avait pas trop mal commencé en début de saison, l'attaque, et progressivement, ouais,
c'était pas prévu comme ça, en tout cas.
Non.
C'est sûr que...
Non, c'était pas prévu comme ça, non.
Et Kellen Moore, clairement, qui était senti pour être coach il y a les années d'avant, le coordinateur offensif, son CV, il est en train d'en prendre un sacré coup, surtout quand on voit comment Dallas flambe sans lui, visiblement, ça fait mal. Mais en tout cas, oui, la blessure de Justin Herbert, pour revenir à ça, c'est la fin de saison décevante d'une saison décevante, quoi.
Oui,
voilà.
Non, mais c'est aussi simple que ça.
C'est vraiment, ça finit en eau de boudin, mais de toute façon, ça a jamais décollé cette saison des Chargers. Il lance 20 touchdowns pour cette interception. Il a souvent été tout à fait honorable. Il a fait ce qu'il a pu dans ce marasme-là. Hein. Mais là, malheureusement, voilà, ça les plombe comme ça. Et on les reverra, lui, l'an prochain.
Oui.
La question maintenant, elle est de savoir si on verra Staley.
Ah, j'ai l'impression que là, vu ce que monte l'équipe ces dernières semaines, t'as un peu le sentiment que c'est un groupe qui... Je ne vais pas dire qu'à lâcher, mais qui n'est pas hyper motivé. Et donc, je ne serais pas étonné que le coaching s'en aille. Hein.
Ouais, et puis en plus, ils sont à 5-8. Ils finissent avec Raiders. Bon, ça, c'est le match du jeudi en plus. Derrière, Bills, Broncos, Chiefs. Les trois qui jouent dans la course au play-off et qui auront en plus la hargne. Donc, ça veut dire qu'ils finissent dans le meilleur... Voilà, 6 victoires, 11 défaites. Il n'avait pas été... après une année de play-off en plus. Là, s'il garde Staley, c'est quand même compliqué. Les Broncos, eux, en tout cas, Sean Payton, ça commence à payer. Et alors, je l'ai dit, le drive de 8 minutes pour la gagne, on est vraiment toujours dans la maîtrise par Sean Payton de cette attaque et dans des victoires qui ne sont pas belles, mais de plus en plus efficaces, parce que mine de rien, il maîtrise ce match.
Ouais, ils maîtrisent effectivement, ils sont jamais vraiment inquiétés par Los Angeles. L'écart est pas incroyable, mais globalement tu sens que Los Angeles a pas ce qu'il faut pour revenir. C'est une équipe qui a progressé au fil de la saison, hein, que ce soit l'attaque ou la défense, c'est de mieux en mieux des deux côtés du ballon. T'as un Russell Wilson qui est quand même bien meilleur que l'an dernier, il y a encore des petites erreurs de gestion de poche, encore des petites pertes de ballon, mais bon, globalement c'est quand même bien mieux. Non, c'est du bon taf fait par le coaching staff du côté de Denver, et c'est vrai qu'on avait un peu on s'était un peu interrogé de Sean Payton, qui est arrivé un peu en toisant tout le monde, qui a enchaîné un premier mois très très compliqué, et depuis faut bien reconnaître qu'il a remis l'équipe sur de bons rails. Et comme tu dis, ils sont à un match des Chiefs, parce que les Chiefs c'est un peu compliqué. Je pense que tu mets un très bon receveur à Kansas City. Je suis pas sûr que Denver soit vraiment un match de Kansas City. Mais.
Ah oui, mais ils l'ont pas.
Mais contextuellement, ils sont qu'à un match et ils sont en course pour les playoffs et ils pourraient très bien y finir, ouais.
Et ils ont fait jeu égal avec les Chiefs, une victoire, une défaite. Ils sont à 7 victoires, 6 défaites. On parlait de ce groupe d'équipes à 7-6. Derrière, ils ont les Lions, ça va être un peu dur. Mais ils finissent avec Patriots, Chargers, Raiders. Donc il y a quand même moyen d'en prendre 3 hein, sur les 4.
Il y a clairement moyen d'en prendre 3 voire 4, parce que des 3, on l'a dit hier, il y a quand même des difficultés. Ouais. Peux les voir.
Mais déjà si t'es à 17, allez, si on dit qu'ils en prennent 3, il y a moyen d'y être. Ce serait quand même une sacrée victoire pour Sean Payton après ce qu'on a vu en début de saison.
Ah, ça serait une sacrée victoire après ce qu'on a vu en début de saison, après ce qu'on a vu l'an dernier de cette équipe.
Alors, j'allais te dire, ouais, tu parlais du coaching, mais faut quand même faire un focus sur le coaching de la défense, parce que eux, ils avaient pour le coup pareil pris un bouillon en début d'année, notamment les 70 points contre Miami. Ils sont à 16 points encaissés par match sur les 8 derniers matchs. Ils volent 2 ballons sur ce match. Les Chargers sont à 0 sur 12 en 3ème tentative, 1 sur 6 en 4ème tentative. Et je trouve qu'il faut saluer le coaching, parce que c'est pas une défense qui a vraiment des énormes stars. Il y a des bons joueurs, hein, il y a des Justin Simmons,
mais tu vois,
y a pas une énorme star.
Non, il n'y a pas d'énorme star effectivement, mais c'est un groupe solide, assez polyvalent. Là, tu as quand même 6 joueurs qui font un sac. Ce qui montre que voilà, c'est vraiment aussi une question de système qui permet d'apporter des choses d'un peu tout le monde. Tout le monde contribue à la défense. Donc, c'est du bon taf de Vance Joseph. C'est certain. C'est vraiment un truc de système là pour le moment. Ils ont réussi à trouver une clé en milieu de saison pour un peu changer tout ça. Faudra prendre un peu plus de recul pour voir ce qui a exactement changé, mais en tout cas, C'est pour moi, quand tu vois qu'autant de joueurs contribuent à la défense, c'est qu'il y a vraiment une question de système, quoi.
Toujours la course en AFC, Bengals 34, Colts 34. Les Bengals qui sont toujours donc dans la course au playoff en AFC, c'est aussi la grande surprise de ces deux dernières semaines. Ils ont débuté fort. Les Colts sont revenus à 14 partout à la pause et puis Cincinnati a remis le pied sur l'accélérateur après la pause. Jake Browning, toujours aussi étonnant, 18 sur 24, 275 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Toujours de l'équilibre avec 111 yards au sol en plus. Il y a 32 passes pour 25 courses. Ça n'a pas l'air d'être un mirage, Raphaël, cette équipe des Bengals, parce que c'est un vrai match solide qu'ils font là.
C'est un vrai match solide, comme tu le dis. Bah, surtout Browning, hein. Encore une fois, au niveau du jeu aérien, on ne savait pas trop à quoi s'attendre il y a deux semaines quand il a pris les commandes de l'attaque. Et on est globalement surpris semaine après semaine, j'ai envie de dire. C'est très propre. En plus, je trouve que c'est bien parce que Zach Taylor ose un peu plus utiliser Joe Mixon maintenant que c'est plus Joe Burrow derrière le centre. Et Joe Mixon, c'est pas le coureur qui va faire 5-6 yards par portée, mais malgré tout, à force d'être utilisé, il use quand même la défense, il avance quand même un petit peu, il est aussi utile à la réception, donc voilà, c'est un match encore complet de Joe Mixon. Non, moi je trouve que cette équipe des Bengals en attaque surprend, et parce que on force moins sur le talent du quarterback, donc on essaye d'utiliser un peu plus les autres pièces et c'est pas plus mal.
Et en plus, Mixon, il permet de créer la possibilité de la course, et donc ce qui ouvre autre chose. Browning sur les play-action sur ce match, 8 sur 9, 174 yards, un touchdown. Et je comprends même pas pourquoi tu fais pas ça avec Joe Burrow aussi, quoi. Ça, c'est quand même un truc qui vraiment, voilà, ça libère des espaces d'utiliser le jeu au sol, il faut que ça existe. Les Colts en face ont perdu 2 ballons, ils ont commis 9 pénalités. Est-ce qu'ils ont été aussi simplement trop brouillons sur ce match?
Ouais, trop brouillons, comme tu l'as dit, perte de balles. Ils ont aussi été bien bloqués au sol, hein, ce qui était quand même une des forces d'Indianapolis depuis le début de la saison, où que ce soit Zach Moss ou Jonathan Taylor, on avait des coureurs qui étaient capables de quasiment à chaque fois accrocher la barre des 100 yards ou pas loin, et qui du coup permettaient de soulager Gardner Minshew qui peut pas, on le sait, il est aussi remplaçant pour ça, qui peut pas totalement porter une attaque de A à Z de tout le match. Là, sur ce match-là, il y a que 46 yards au sol, seulement 18 courses, lui, à 39 passes, et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué pour cette attaque, tout ça. Ouais.
Cincinnati a bien joué le coup, 272 yards en effet seulement pour Indianapolis, et les deux équipes sont donc à 7 victoires 6 défaites dans cette fameuse course au playoff pour les wildcards. On va pas vous faire le détail à chaque fois des possibilités, à mon avis avant soit la dernière soit l'avant-dernière semaine, hein, au rythme où ça va, de toute façon tout le monde va être égalité jusqu'à un moment. Derrière eux justement, les Jets 30, Texans 6, une petite occasion loupée par Houston qui justement pouvait se rapprocher des Jaguars et se détacher du gros groupe de poursuivants dans la course au playoff, mais c'est la surprise de la semaine, un solide Zach Wilson pour mener les Jets à la victoire face aux Texans. Houston beaucoup moins heureux dans ce match, protocole commotion et même commotion cérébrale confirmée pour CJ Stroud, Nico Collins touché au mollet dès la première série, Will Anderson aussi en défense a été blessé. Ils ont complètement été étouffés par la défense des Jets, ce qui n'était pas forcément surprenant, je veux dire, pourquoi pas, hein, c'est une défense exceptionnelle, ça pouvait arriver face à un quarterback rookie. Mais l'histoire, évidemment, c'est Wilson, 27 sur 36, 301 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Peut-être le meilleur match de sa carrière, c'est son troisième match à plus de 300 yards en carrière.
Oui, peut-être son meilleur match, même s'il y a une première mi-temps qui, en termes de points, est pas bonne. Hein. T'as quand même beaucoup...
Bah zéro.
Voilà, t'as beaucoup de séries qui donnent, à la fin, pas grand-chose. Pas que de sa faute, hein, mais bon. Donc, t'as vraiment une très bonne mi-temps. Écoute, il a été intelligent dans la poche, précis dans ses lancers. C'est bien, il n'a pas été pris au premier tour pour rien non plus. Donc, c'est qu'à un moment, il est capable de faire ça de temps en temps. Mais le problème, on va pas le découvrir, c'est que la semaine prochaine, il risque à nouveau ressortir de la poche n'importe comment et de lancer une passe n'importe comment. Donc, écoute, moi je. Bon.
Disons que ce qui est pratique, c'est vrai que comme tu dis, il a eu à peu près les mêmes stats contre les Chiefs, hein, plutôt dans l'année. Il y avait déjà eu un petit truc un peu, ah oui, mais il a été solide contre les Chiefs. Donc on va attendre là-dessus. En tout cas, on constate ce match a été bon. Oui. Après, ce qui est bien quand t'es un quarterback qui veut te mettre en valeur, c'est comme Nathaniel Hackett ne veut pas courir, ne veut pas vraiment pousser sur Brice Hall et Dalvin Cook, tu vois. Au moins, tu vas lancer 36 passes contre 26 courses, même si t'es Zach Wilson. Ça, c'est quand même le. C'est pas forcément bon pour le plan de jeu, mais c'est bien pour les quarterbacks quand même, il faut le dire. Jouer pour Nathaniel Hackett.
Ah non, c'est sûr, ça te permet en théorie de peut-être te mettre en valeur. Alors, autant, bon, Dalvin Cook, il est tellement mauvais depuis le début de la saison que je suis pas non plus extrêmement choqué de pas l'utiliser, mais c'est vrai que moi, encore une fois, Brice Hall, je trouve. même s'il est peut-être un peu moins bon depuis un ou deux matchs, bon, je le trouve encore un peu sous-utilisé.
Faut leur donner du rythme aussi au cours.
Mais je suis d'accord, au bout d'un moment, quand tu fais que 5, 6, jamais, 10 portées, tu perds un peu en rythme potentiellement. Ouais, voilà, c'est Nathaniel Hackett, hein, que veux-tu
Garrett Wilson, en tout cas, on a bien profité aussi. 9 réceptions, 108 yards. Brissy Hall, quand même, il prend 8 réceptions, 86 yards, un touchdown. Il gagne deux fois plus de yards dans les airs, Brissy Hall. Au moins, ils lui ont trouvé une utilité, ce qui est déjà pas mal. Du côté des Texans, c'est un peu la soirée cauchemar. Hein. 135 yards au total, CJ Stroud avec la commotion. Stroud, c'est sa pire fiche. Hein. Il a 10 sur 23, 91 yards. C'est vraiment un cataclysme pour lui. Ils ont gagné seulement 54 yards nets dans les airs. Si on enlève les sacs, etc., ça a été très très compliqué. Ils gagnent 80 yards au sol. Sous la pluie, il pleuvait des cordes aussi. Mmh. C'est vrai qu'ils viennent de Houston, mais ils jouent quand même dans des conditions généralement beaucoup plus favorables. Ça a peut-être pu un peu jouer. Il y a la fatigue, c'est pas évident pour les équipes jeunes comme ça. On a l'impression qu'ils pouvaient rien faire en fait. J'ai l'impression qu'il y a grand chose à analyser parce qu'il y avait une défense de très très haut niveau en face. Et là, on a l'impression que tout allait contre eux, quoi.
Ouais, tout allait un peu contre eux, comme tu dis. Il y a déjà cette très bonne défense qui n'est pas facile à maîtriser pour un quarterback rookie. Hein. On a vu tous les autres quarterbacks de la ligue plus ou moins se casser les dents là-dessus. En plus, ils peuvent pas spécialement insister sur les receveurs qui étaient quasiment tous blessés parce que tu as Nico Collins qui quitte aussi sur blessure. Donc bon, il finit quand même le match avec Brevin Jordan qui est un tight end remplaçant. John Mechie qui est un rookie qui enchaîne les pépins de santé compliqués à gérer. Tu sens effectivement que t'es sur l'équipe qui manque d'expérience, qui en plus a beaucoup de blessés et qui tombe face à une bonne défense. Bon bah ouais, tu tombes un peu de haut, mais c'est pas une chute illogique.
Prenons la direction de la NFC Sud maintenant, Raphaël. On rentre dans le rêve. Là, on va dans le sud, justement. Il va faire meilleur. Il y a des dômes, il y a du beau temps, il y a plein de choses. Mais ce qui manque, c'est un peu le beau football. Ça, c'est un peu plus difficile. On va parler un petit peu de ces équipes qui sont à égalité pour la première place de la NFC Sud avec 6 victoires et 7 défaites. Et notamment les Buccaneers, qui sont les nouveaux leaders de cette redoutable division. Ils ont pris l'avantage à 31 secondes de la fin sur un touchdown de Cade Otton. Passe de Baker Mayfield, évidemment. Et j'ai l'impression que Raphaël, c'est un peu là qu'on voit qu'avoir un quarterback vétéran dans cette division, ça peut peut-être faire la différence. Et pas que quarterback d'ailleurs, un vétéran. T'as du Mike Evans, t'as du Chris Godwin qui a été très important dans ce match. Et finalement, ça fait des différences.
Ouais, je pense qu'effectivement, ça fait partie de ce qui a pu faire la différence, hein, cette capacité des vétérans à porter l'équipe. Après, je trouve aussi que pour une fois, il y a eu un peu plus de jeu au sol côté Tampa Bay.
Oui, j'allais y venir, mais depuis quelques semaines, Rachaad White semble commencer justement à prendre du rythme.
Ouais, lui commence à prendre du rythme, sa ligne offensive aussi, et ça, c'est vrai que c'est quand même une sacrée différence par rapport au début de saison. Même si White, on le voyait un peu plus sur des phases de réception au final en sortie de backfield tout ça. Là, on peut enfin compter sur un peu de sol pour avancer le ballon, donc c'est effectivement pas mal. Après, je trouve aussi que Atlanta commence à baisser de rythme quand ils ont perdu beaucoup de monde sur la ligne offensive. On a senti que ça commençait à plomber un peu cette équipe. Hein. Ils perdent en cours de match, ils perdent quand même Jack Matthews et Chris Lindstrom. Bon, je reste pas impressionné par ce que fait Tampa, mais comme tu dis, c'est l'équipe de vétérans solides, accrocheuses et qui va chercher au forceps, quoi.
Bah clairement, c'est pas impressionnant, hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je sais plus sur qui, mais c'est le vieux basketteur sur le playground qui connaît les moves et qui te met dans le vent où t'as l'impression qu'il marche. C'est un peu ça, hein. Mais le problème, c'est qu'en face, bah, tu le disais, alors il y a eu les pépins sur la ligne offensive, et du coup, c'est irrégulier, c'est-à-dire qu'ils ont été menés 14-0, ils reviennent, ils passent devant les Falcons, ils repassent devant à 3 minutes de la fin sur une course de Desmond Ridder, qui est pareil, un peu sur courant alternatif, mais qui est encore à plus de 340 yards à la passe, donc pourquoi pas. Mais ils n'ont pas de jeu au sol quasiment, ils sont à 3,7 yards par course. On se demande où est passé ce jeu au sol là. C'est un peu compliqué de les cerner, quoi. Il y a Drake London qui est monumental, il prend 172 yards en 10 réceptions, il est partout. Kyle Pitts qui commence à être un petit peu utilisé, mais il n'y a rien de régulier dans tout ça. Alors que justement, le vétéran qui marche en marchant, qui joue en marchant à côté, il arrive au bout à la fin, lui, quoi.
Ouais, oui, il y a un peu de ça. Il y a aussi quand même deux grosses erreurs de Desmond Ridder. Alors, bien sûr, il y a des séries où il amène autogène, mais t'as quand même ce safety qui prend, qui pour moi est un peu pour sa faute, et cette vilaine interception qui pareil, coûte très cher derrière parce que ça se transforme en autogène. Donc,
mais tu vois, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il y a des très hauts et des très bas, quoi. Il y a tout là-dedans, ça part dans tous les sens.
Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que pour une fois qu'en plus, Yunku, qui est un des meilleurs kickers, rate des field goals en plus, à la fin, ça coûte cher dans l'addition aussi. Bon.
On retrouve donc ces deux équipes à 6 victoires et 7 défaites à égalité avec les Saints qui ont battu les Panthers 28-6. Alors dans le genre score trompeur, celui-là est pas mal. Les Saints ont fini par tuer le match avec 2 touchdowns en fin de partie, mais ils ont énormément de mal avant. Leur attaque n'a gagné que 207 yards. À un moment du match, Derek Carr était à 13 sur 20 pour 37 yards. Il avait complété 13 passes pour 37 yards et une interception. Cette fiche de stats ne veut rien dire. Ils sont toujours aussi pauvres en attaque quand même. On a toujours l'impression qu'ils savent pas quoi faire de leurs armes.
Bah, et en plus là ils étaient peut-être d'autant plus perdus qu'ils avaient pas Taysom Hill et Rashid Shaheed, qui étaient deux des armes qui marchaient le mieux ces dernières semaines. Donc je pense que Pete Carmichael a été encore plus déstabilisé par ça, vu qu'il n'a pas l'air de vraiment savoir utiliser d'autres par moment. Mais c'est toujours le même problème en attaque. Côté New Orleans, on ne sait pas vraiment où ça va. On a un Derek Carr qui n'est pas bon. On a vu la scène où il s'embrouille avec son centre, Ruiz, qui, en termes de body language, d'entente dans l'équipe, m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait l'alchimie prend pas entre Carr et ses coéquipiers. Alors bien sûr, nous on juge ça depuis notre fauteuil et peut-être qu'on se plante totalement, faut pas, mais à coup pas si c'est le cas, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend pas, tout simplement.
Après, j'arrive pas à comprendre pourquoi t'as pas un truc où tu gaves Alvin Kamara et Jamal Williams de ballon, tu cours 35 fois et tu distilles des passes à Chris Olave et à ce que t'as, enfin. Je sais pas, il y a quand même des choses à faire, mais c'est vrai que cette attaque est pataugeuse. Alors après, la bonne nouvelle pour New Orleans, c'est que les Panthers, évidemment, sont encore plus pauvres en attaque. C'est-à-dire que on est à... Alors, il y a 204 yards au sol, 5,2 yards par course. Ça bourrinait, c'était magnifique. Là, pour le coup, eux, ils ont dit, on met le ballon dans les mains des coureurs, 39 courses, il n'y a pas de problème. Mais 1 sur 7 sur 4e tentative, 0 sur 2 dans la zone rouge, 2 ballons perdus. Et Bryce Young qui, pour le coup, lui, rame, quoi. 13 sur 36 à la passe.
Ouais.
13 sur 36.
Ouais, non, mais c'est...
Alors, je parlais de fiches de stats qui voulaient rien dire. La première mi-temps de Young, c'est 3 sur 15 pour 28 yards.
Non, mais c'est compliqué. Alors, il a une escouade de receveurs qui est vraiment pas bonne, une ligne offensive qui est pas bonne, mais c'est vrai que lui inspire peu. Et on a un coaching staff qui donne pas le sentiment de savoir comment vraiment l'utiliser, de savoir. Enfin. Je sais pas, c'est assez compliqué. Heureusement, ça avance un peu au sol depuis quelques semaines, mais c'est pas non plus incroyable. C'est assez morose l'attaque du côté des Panthers, et je pense que Bryce Young est peut-être pas tombé dans le bon coaching staff ou dans le bon environnement pour le moment, quoi.
Ouais, ça va être une des vraies problématiques de l'intersaison. Bon, après, de toute façon, Frank Reich est en viré. Maintenant, il va falloir. Juste remanier tout ça pendant l'intersaison. Saints, Falcons, Buccaneers, c'est qui les plus rassurants? Encore une fois, on va pas faire tout le détail de la course à chaque fois, mais bon, on peut juste dire sur ce qu'on a vu sur ce match-là, c'est quoi le favori entre ces trois équipes à 6 victoires, 7 défaites? Parce qu'il y en a une qui est en play-off. Hein.
Oui, il y en a une qui est en play-off. C'est quoi le plus rassurant? Je ne sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en ai.
Buccaneers, non?
Hein?
C'est Buccaneers, non?
Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont un calendrier un peu compliqué. Donc.
Ouais, moi, en tout cas, sur le fond de jeu, je dirais Buccaneers.
Oui, peut-être.
C'est ceux qui ont le plancher le plus haut et le plafond le plus bas, j'ai l'impression.
Oui. Ça, oui. Je suis d'accord là-dessus. Donc, à partir de là, vu qu'ils ont le plancher le plus haut et le plus stable, peut-être que ça peut passer, ouais.
Parce que le problème des Saints et des Falcons, c'est que des fois, ils descendent en dessous de la cave au niveau du plancher. Donc,
non, c'est vrai.
Par séquence. Tiens, en parlant de descendre en dessous de la cave, Raiders 0, Vikings 3. Alors, on parle souvent de football champagne en rigolant ici. Celui-là, il était particulièrement savoureux. D'ailleurs, c'est toi qui t'es ramassé. Alors, Raphaël, il rentre d'M6, il est un peu fatigué. Il est sympa, il se dévoue. Il dit non, t'inquiète, je te gère les rendez-vous de 22h pendant que tu rentres. Va dormir un peu et tout. Je me réveille et je vois qu'il s'est mangé un 3-0.
Alors, celui-là.
433 yards cumulés entre les deux équipes, pas juste pour une équipe, hein. Savoir que serait Miami, ça peut être un match, mais non. De mémoire d'ailleurs, je crois que les Rams gagnent 430 yards, oui, un truc oui, comme oui, ça, oui, sur le match qu'on fait. Et bah là, 433 en cumulé, donc t'as eu un chaud-froid en deux heures, terrible, t'es passé de l'un à l'autre. 17 punts. Un field goal dans le dernier quart, il y avait 0-0 hein, à l'entame du dernier quart-temps, pour offrir la victoire aux Vikings. Justin Jefferson qui est sorti avec un coup à la poitrine, blessure interne, apparemment c'est pas trop sérieux. Josh Dobbs mis sur le banc au profit de Nick Mullens, parce que évidemment on s'amusait pas assez. Donc là tu te frappais quand même un duel Nick Mullens-Aidan O'Connell. Est-ce que, tiens, on peut commencer là-dessus, est-ce qu'il y a une polémique entre Nick Mullens et Josh Dobbs? Dobbs était à 10 sur 23, 63 yards quand il sort, Mullens est à 9 sur 13 et 83 yards.
Non, il n'y a pas vraiment de polémique, effectivement on voit que Dobbs n'arrive à rien et du coup Kevin O'Connell tente de réveiller un peu tout ça en envoyant Mullens. Je suis pas choqué, c'est pas comme si Dobbs avait non plus un historique qui fait de lui un imbougeable, tu vois. Donc pourquoi pas tenter un petit coup de boost. Ça a été effectivement un poil meilleur sur la fin du match, vraiment un poil, hein, parce que je peux pas faire croire autre chose. Mais pour être honnête, moi j'étais déçu que Joseph réussisse son field goal parce que je voulais aller en prolongation à 0-0. Non, mais au moins ça aurait été légendaire, tu vois. Enfin, 0-0, c'était vraiment la légende.
T'imagines un match nul en bout de prolongation à 0-0?
Bah, au moins j'aurais fait un résumé d'un match légendaire, d'un truc qui était jamais arrivé. Là, tu vois, un vieux 3-0, c'est presque encore pire, quoi, parce que c'était un match affreux. J'ai pas d'autres mots. En plus, t'as Josh Jacobs qui sort sur blessure côté Raiders. Ouais. C'était. Enfin, il n'y avait rien.
D'ailleurs, tout est de la faute de la ligne pour les Raiders, parce que Aidan O'Connell prend 19 pressions, 4 sacs, et Josh Jacobs est blessé. Donc, vu de l'extérieur, quand tu débarques le matin, tu te dis, vrai, il y a eu un petit problème de ligne offensive, on dirait.
Oui, il y a un problème de ligne offensive sur lequel, en plus, Brian Flores a insisté, parce qu'on sait, Brian Flores, c'est le coach défensif qui fait le plus blitzer. Donc, je veux dire, il s'est régalé. Il a vu qu'en face, c'était faible. Il a envoyé ses gars toute la soirée, et voilà. Après. Ouais, donc oui, effectivement, la pression a empêché de développer un peu de jeu, mais bon, normalement, tu dois quand même pouvoir faire un peu plus que ça malgré autant de pression. Non, c'était une bouillie de football.
Et en parlant de polémique au poste de quarterback, d'ailleurs, je parlais d'Aidan O'Connell, mais donc Antonio Pierce, maintenant, se demande s'il ne doit pas remettre Jimmy Garoppolo.
Ouais, oui. Après, j'ai envie de te dire, je remets Jimmy Garoppolo, mais pour... Pourquoi ? On est à 5-8. Tu vises plus rien et c'est quoi ? Quel est le plan derrière tout ça ? Je ne sais pas.
Quel est le plan derrière tout ça ? Je pense que ça devrait être le slogan des Raiders en même temps, hein, ces 20 dernières années. Tu sais, au lieu de Just Win Baby, sur les logos de la franchise, ils mettent quel est le plan, tu vois ?
Ouais.
Parce que en tout cas, ça fait 3 défaites pour les Raiders. Antonio Pierce, c'est bon, là, on a passé le stade de la lune de miel qui a duré un match. Et c'est bon, on sait qu'on va chercher un autre coach.
Voilà. Ouais, je pense, effectivement.
Je pense que là, on a à peu près fait le tour du sujet. Giants 24, Packers 22 pour terminer avec cette conférence NFC, avec un match qui avait lieu dans la nuit de lundi à mardi. Étrangement, deux Monday Night Football d'un coup à la même heure. J'ai absolument pas compris le projet de la NFL. J'ai pas souvenir que ce soit déjà arrivé souvent.
Bah non, je sais pas du tout non plus le pourquoi.
Et puis sur une semaine complètement random, tu vois, genre en semaine 14, on met un double Monday Night. Ok. Bon. Donc 3 victoires de suite pour les Giants. New York l'emporte sur un field goal à la dernière seconde. Est-ce que Tommy DeVito est un peu en train de sauver la tête de Brian Daboll, dis donc?
Peut-être bien. Ah, je sais pas si Daboll était vraiment menacé cette saison. Mais bah, tu sais, comme l'an dernier, quand même, ils font une bien meilleure saison que ce qui était arrivé. Cette année, t'as le quarterback blessé. En plus, il est arrivé avec le GM qu'il connaissait déjà des Bills. Donc je pense qu'il avait quand même un peu de marge là-dessus. Mais c'est vrai que, en tout cas, il redonne vie à cette équipe, il redonne un peu d'enthousiasme autour de lui, autour de cette attaque.
Mais alors, autre question, Tommy DeVito, 17 sur 21, 158 yards, un touchdown, aucune interception. Est-ce qu'il est en train de devenir un concurrent à Daniel Jones, surtout ?
Bah, peut-être.
Meilleur rapport qualité-prix ?
Ouais, possible. En tout cas, suivant où les Giants sont à la draft et leur capacité à monter ou pas pour aller chercher un quarterback, bon bah pourquoi pas l'an prochain mettre Daniel Jones en concurrence que tu peux pas couper comme ça avec DeVito, tu vois, au camp d'entraînement et finir par choisir le meilleur, ça me paraît pas une solution ridicule.
Ils ont retrouvé leur identité au sol, hein, quand même, oui, mine de rien, oui, on parle de Vito, mais 34 courses pour 21 passes et 34 courses qui ramènent 209 yards à 6,1 yards par course. Si on doit résumer ce match, on peut aussi dire qu'il y a eu un petit problème sur la défense au sol de Green Bay, visiblement.
Ouais, 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 vraiment, que ce soit pour défendre sur Barkley ou même De Vito, hein, parce que De Vito a quand même 71 yards au sol.
Oui.
Donc c'était pas bon de ce côté-là. Match décevant de la défense de Green Bay parce qu'on les avait vus mieux quand même ces dernières semaines et ils n'arrivent pas à défendre la course, ils mettent très peu de pression sur De Vito ou en tout cas ils n'arrivent pas à conclure ces actions de pression, donc ils perdent aussi un peu là-dessus sur cette incapacité à mettre en déroute une attaque qui n'était pas si bonne que ça.
J'ai l'impression que dans l'ensemble, ils ont un peu trahi leur jeunesse sur ce match. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, en attaque, il y a beaucoup d'occasions manquées dans les derniers yards. Il y a des sacs dans la zone rouge qui les font reculer. Il y a trois ballons perdus. Pour moi, là, c'est là qu'on voit qu'ils sont la plus jeune équipe de la ligue et que c'est quand même dur dès la première année de. Encore une fois, ils partent de loin quand même.
Oui, mais non, ils partent de loin, effectivement. Ils ont un jeu au sol qui a un peu de mal à se stabiliser. Même si là, 123 yards, c'est pas ridicule, mais. Bon, ça aurait peut-être pu être un peu mieux, un peu plus de portée à AJ Dillon aussi, malgré tout. Ouais, la jeunesse, sans doute, effectivement, qui joue là-dessus, sur un match qui, dans la course au play-off, qui doit être pris face à une équipe qui est en théorie plus faible, et tu vas te planter un peu bêtement sur des erreurs individuelles, ouais.
Et ça semble, du coup, de facto, quand même plus ou moins les sortir hein, de la course... La course au playoff, quoique ils sont toujours 7e, tu me diras,
oui,
ça prend 4 matchs.
Oui, ça peut passer, écoute. Hein,
C'est vrai que là, je pensais au 7-6 dans la conférence AFC, mais on est plus sur du 6-7 hein, sur les égalités. D'ailleurs, ils sont tête de série numéro 7 au moment où on se parle encore, en étant à un bilan négatif. Ils sont à égalité avec les Rams, mais les tiebreakers donc, sont en faveur de Green Bay, mais les Rams sont à 6-7 aussi, les Seahawks à 6-7, les Falcons à 6-7 et les Saints à 6-7, donc mine de rien. Et les Giants sont à 5-8. Hein, et devant eux, c'est les Vikings à 7-6.
Oui, non, mais pourquoi pas après tout.
et les Vikings qui sont pas à l'abri de s'écrouler vu le niveau de l'attaque, donc oui. Donc ouais, ça va être passionnant. Un peu moins relevé qu'en AFC, j'ai l'impression, mais ça va être passionnant tout autant.
Un peu moins relevé par le bas, peut-être plus par le haut, mais
Oui, c'est plus solide en haut par contre. Oui, il y a un vrai. Par contre, il y a un vrai écart hein, avec d'autres équipes. Les San Francisco 49ers, on l'a pas dit, mais sont la première équipe qualifiée d'ailleurs grâce à la défaite des Packers. Mathématiquement, les 49ers sont en playoff, c'est la première équipe cette année. Et après, oui, au-dessus, numériquement, 49ers, Cowboys, Lions, Eagles, c'est au-dessus de tout ça. Hein. Les quatre là, ils sont tranquilles. Et après, ils font un vainqueur de la NFC Sud et deux wildcards. Mais sinon, c'est à peu près tout. On finit juste avec un petit point, Raphaël, tu es la caution italienne de ce podcast. Ouais. C'est toi qui avais défini si c'était de mauvais goût ou pas déjà les célébrations de Tommy DeVito, etc. On finit avec lui. Validé ou pas, l'agent au bord du terrain déguisé en, j'allais dire en mafieux, mais en l'image que en caricature de mafieux,
ouais,
peut-être.
C'est ça. Non, alors pour le coup, non, pas vraiment validé. Vraiment, enfin, ouais. Ça...
Donc là, je pense qu'il est déguisé parce que c'est pas ça.
Mais bien sûr, il est déguisé
pour la blague.
C'est pour faire genre. Enfin.
Donc pour nos auditeurs qui n'ont pas vu, on rappelle, il avait un chapeau, un costume à rayures un peu. La chemise est noire, je crois,
ouais,
ou blanche,
ouais.
Je sais plus. Mais costume un peu à rayures et chapeau. Alors c'est ce qu'on a dit entre nous. Hein, il ressemble plus à l'inspecteur Gadget.
C'est clair.
Qui a un mafieux parce que son visage a un peu le même et le chapeau fait très inspecteur Gadget.
Non, mais c'est, oui, mais c'est voilà. Ça, c'est l'image du mafieux des années 20, mais dans les films hollywoodiens en fait. C'est,
oui,
c'est,
en plus.
C'est genre vraiment. Bon, bref, on a bien rigolé.
Voilà, en tout cas, c'était le sketch. Il est apparu à côté de Tommy DeVito, je suppose que c'était à l'échauffement, et puis après, il était dans les tribunes avec
ouais,
ses parents.
Après, moi je comprends la famille de DeVito. Tu sais pas combien de temps va durer cette hype DeVito et combien de temps il va être titulaire. Qu'il veuille en profiter et se faire plaisir, moi je comprends l'idée. Hein.
Mmh. Et puis c'est les States, ils essayent de faire rentrer
oui,
l'argent.
Ah bah, il faut faire des interviews derrière et le film sur le gars du New Jersey italien. Et qui, ouais,
c'est ça. Genre, là, il leur reste 4 semaines pour rentabiliser le fiston.
Ah bah, dans 4 semaines, il signe une télé-réalité avec je sais pas quelle chaîne du câble américain. Et
J'imagine. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 692 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous en remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Plein de nouveaux tipeurs cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a les nouveaux calendriers TD Actu 2024 qui sont arrivés. On vous l'a déjà dit, mais n'hésitez pas. Il en reste encore quelques-uns. Ils sont à 10€ sur le Tipeee. Ça fait un bon geste pour nous soutenir. C'est reversé à la rédaction, hein, évidemment. Tout ce qui tombe sur Tipeee, ça paye les gens qui font ce podcast comme Raphaël. Donc, si vous voulez que Raphaël mange, notamment, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos sous. un peu, ouais, mais si on leur dit que tu manges déjà du caviar à tous les repas, tu vois, il faut les apitoyer un peu. Donc on remercie Marine, Francis D, Aki, Rook77, Richard, Elodie, Michael, Zwin, Andri, Champio, Ilian Esteves, Palmito, Yann Chanrou, Nathanael, GGN37, Manu22 et Jérôme. Les calendriers partent, il m'en reste 3 sur mon bureau, je regarde, mais tous les autres sont partis. Je suis désolé, je manquais de timbre. Les 3 derniers, c'est parce que j'avais plus de timbre, il fallait que j'aille en réimprimer, mais je fais toutes mes blanches mains. Donc voilà, des fois je suis à court, mais il y en a eu tellement que j'avais j'ai eu du retard parce que j'avais plus d'enveloppe, il a fallu que j'aille chercher des enveloppes, et après j'avais plus assez de timbre, donc il a fallu que je retourne chercher des timbres. Donc voilà, j'ai pris du retard. Merci beaucoup Raphaël pour nous retrouver, évidemment comme d'habitude, tdactu.com pour toute l'actualité de la NFL. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, tdactu partout sauf Instagram où c'est @touchdownactu en entier. Raphaël _ TDA pour Raphaël sur Twitter et @AlainMatei pour moi-même. Vous retrouvez nos camarades Victor et Raoul à la présentation demain de la preview de la semaine à venir qui sera donc la 15e semaine. Attention, il y a des matchs le samedi cette semaine. Soyez attentifs, il y aura des matchs le samedi. Merci Raphaël, merci à tous. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.